invité dans la deuxième intervention de cette prise de parole, donc Sylvie Segard de l'INA, qui travaille en fait au service du management des données et des médias en tant que responsable de mission, méthode et référence. Et donc, elle va venir nous parler des bonnes pratiques donc, pour collecter et fabriquer les métadonnées.
Il faut que je prenne un micro,
c'est oui, ça? Oui, c'est mieux, oui, prenez. Faut que tu switches. Yes.
Bonjour, et bien, l'introduction, enfin, l'intervention de
Bernard,
merci, est parfaite parce que maintenant je vais vous.
Tu étais fait pour.
Une illustration de ses propos, en fait, avec ce qui se passe dans les bases de données documentaires de l'INA concernant l'interprétation des données et leur mise à disposition. Donc, on va voir rapidement les enjeux, hein, qui sont liés au traitement de ce flux qui est intégré dans les bases de données de l'INA, quelques données chiffrées, et on va voir comment se portent, comment se passent ces importants de données, genre intégration dans nos bases, dont parlait l'intervenant précédent. Je ne vais pas revenir sur ma création de l'INA, le son du soir, mais juste pour vous donner quelques données chiffrées afin que voilà, vous ayez une idée un peu des volumes qui sont traités dans le cadre de l'INA, à la fois au titre de son de l'archivage qui est fait à titre professionnel, c'est ce qu'on appelle entre nous à titre professionnel, c'est-à-dire l'archivage qui est fait à des fins de réutilisation essentiellement par des professionnels de l'audiovisuel, mais aussi à destination d'un autre public, mais... et l'archivage qui est fait dans le cadre de la loi sur le dépôt légal de la radio-télévision et aujourd'hui des sites médias, web, hein, médias, pour voir qu'on est dans des volumes qui ne permettent pas un format d'orfèvre peut-être, en tout cas sur mesure, quelques centaines de documents. Hein, nos fonds s'accroissent au titre du dépôt légal de plus d'un million cinq d'heures par an, et pour l'archivage professionnel, on en est déjà à 2,5 millions d'heures, 5 heures d'archivés. Donc forcément, on est confronté à des volumes qui nous obligent à trouver des solutions pour pouvoir traiter quand même tous ces vœux, sachant que ça me concrète pour ma télévision. Voilà ce que ça représente un peu en nombre de chaînes. Le tout étant capté, c'est 183 chaînes de la radio, de la télévision sont captées 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. L'enjeu est d'arriver à identifier tout ce qui est diffusé et à poser sur tous ces programmes un minimum de données qui permettent l'identification des programmes et donc de pouvoir les retrouver. Sachant que nous avons une multitude d'usages possibles dans le cadre de ces deux archivages, soit au titre d'archivage professionnel ou au titre du dépôt légal, qui vont des usages grand public, que vous connaissez pour certains, puisque les réseaux sociaux atteignent aujourd'hui des sommets de fréquentation. Donc, je pense que vous avez déjà vu passer des posts de l'INA sur les différents réseaux sociaux. L'INA est également présent sur différentes chaînes YouTube, sur une plateforme qui s'appelle Madeleine. Donc ça, c'est accès au grand public. Mais vous connaissez aussi, j'imagine, des documents, qu'ils soient sur les documentaires, des reportages, des sujets du jour matérialisés. Vous avez déjà dû voir le logo INA apposé sur ces images ou en entendre parler si vous écoutez les chaînes de radio. Donc ça, c'est l'usage professionnel, c'est-à-dire la réutilisation des fonds pour créer de nouvelles productions. Et un usage qui est plus scientifique, qui s'adresse davantage à des élèves, des enseignants, des étudiants, des chercheurs, à travers la plateforme Lumi ou à travers l'INATEC, hein, qui a un centre de consultation non seulement à Paris, mais aussi dans toutes les dans un très grand nombre,
50.
50 villes des régions de nos régions ou d'outre-mer. Et peut-être, je suppose, connaissez-vous aussi le LAM, qui est une émanation de l'INATEC et qui est un laboratoire de recherche sur les médias. Donc voilà, donc l'enjeu pour nous, c'est d'écrire pour mettre à disposition les collections pour tous ces usagers. Donc, comment faire face à vraiment à ce défi. Donc, le socle de notre fonctionnement est aujourd'hui repose sur des imports de données qui sont que nous importons soit de sociétés de presse ou de diffuseurs et qui nous permettent déjà en amont de la diffusion d'importer des journées de programme qui reprennent tous les éléments caractéristiques d'un programme, à savoir ses titres, sa production, le générique, parfois même les résumés, les épisodes s'il s'agit de saisons pour des séries documentaires ou des fictions. Après diffusion, nous importons des données issues de médiamétrie, que sont notamment les horaires de diffusion, qui permettent de s'assurer de la réalité de la diffusion, hein, parce qu'on sait qu'entre un journal de programme où on annonce une diffusion et la rediffusion réelle, il y a toujours des ajustements, parce que là, il peut se passer un attentat et la diffusion est totalement bouleversée sur la journée. Donc effectivement, ce sont les horaires issus de médiamétrie qui permettent vraiment de retracer la vraie diffusion. On importe également les taux d'audience et les bas de marché. Et pour certaines chaînes ou pour certains programmes, on importe aussi d'une autre société des résumés sur certains programmes. Donc la base des entrées premières dans nos bases de données documentaires, ce sont ces imports qui vont ensuite, à travers les opérations de catalogage, faire l'objet d'un traitement qualité, si on veut, puisque on va aligner ces données qui ne sont évidemment pas formatées comme on le souhaite à l'INA. On va les importer en les alignant sur le modèle de données IA pour les rendre cohérentes et les structurer et les enrichir en fonction des catégories qu'on souhaite enrichir. Donc, on apporte aussi. On parlait d'opérabilité dans l'intervention précédente. Et nous, on est très soucieux de ça. Donc, on importe aussi des données qui nous permettent d'aligner par exemple, sur l'identifiant LISAM, qui nous permet de pouvoir communiquer avec les sociétés d'auteurs. Hein, et tout ça, et évidemment, toutes ces informations sont évidemment essentielles pour le rapprochement des programmes. Après ces opérations de catalogage, où déjà on a la structure de chaque programme diffusé, donc si on parle d'un documentaire, on peut imaginer toutes les informations qu'on entre déjà rien qu'à travers le catalogage. Ensuite, il y a une opération de description documentaire, hein, on appelle de l'indexation, souvent dans le métier de documentaliste, qui va consister à valider le catalogage qui a été fait par une autre catégorie de personnel, qui sont les techniciens de gestion des données multimédias, et d'enrichir la description par des descripteurs, des mots-clés de contenu qui indiquent de quoi ça parle. et par des chants textuels qui consistent en général en un chapeau, un résumé et un chant séquence. Ça veut dire des chants qui permettent vraiment de dire, de structurer l'information dans une optique de résumer l'information. On utilise évidemment pour ça différents langages documentaires. Je ne vais peut-être pas revenir sur la spécificité du thésaurus, vu que c'est déjà le sujet de cette séance. Vous devez connaître, j'imagine, les subtilités d'un thésaurus. Donc, à l'INA, nous avons notre propre thésaurus, qui est un thésaurus qui regroupe à la fois les mots communs, les personnalités, les personnes géographiques, tout ce qui est géographie administrative, mais aussi historique et culturelle. Nous avons par ailleurs d'autres vocabulaires contrôlés, d'autres listes d'autorité, beaucoup de référentiels, on en a 80 à ce jour, et des référentiels qui regroupent à la fois, donc les référentiels, c'est du vocabulaire contrôlé ou natif à thésaurus, si ce n'est pas spécificité du thésaurus et que c'est à. Ce sont des comment. Les termes sont structurés et hiérarchisés par les champs sémantiques. Donc, les autres référentiels, ça va être par exemple les personnes physiques qui n'ont pas besoin vraiment d'être réparties en champs sémantiques, mais qui n'ont de multiples relations, qui chaque personne physique va comporter une autre qualité avec sa fonction, son BI. Son historique, c'est-à-dire sa date de naissance, sa date de décès, des notes de confrère, hein, même pour une personne physique, à savoir cette personne a changé de nom à partir de telle date, par exemple le pape. Le pape, il a un nom de famille, il a un nom d'ecclésiastique, et qu'à partir du moment où il devient Léo XIV, c'est comme si c'était une autre personne dans le référentiel. C'en est pas eu, puisque ça reste un même identifiant, mais avec différentes périodes de vie, avec différents. Donc, on gère tout ça, on est référentiel. Et alors, qu'on a de multiples référentiels aussi, les typologies, hein, le genre, les genres, les thématiques, des référentiels après qui sont plus techniques sur les formats, les codecs, Et donc, on a pour ambition effectivement d'assurer une certaine interopérabilité avec d'autres bases de données et avec d'autres systèmes de gestion de données. On mène actuellement un gros travail pour le rapprochement de tous les noms communs de nos thésaurus avec les termes Wikidata. Et ce travail-là a été impulsé à l'origine dans le cadre de ce qui se mène en réflexion, en travaux à l'INA sur l'utilisation d'outils issus d'intelligence artificielle pour transcrire et surtout pour faire remonter des transcriptions, ce qu'on appelle des entités nommées. Et donc, ça passe par des correspondances, si on veut. On essaye de faire se correspondre les référentiels documentaires avec des identifiants Wikidata. On utilise aussi des identifiants de la BNF et ceux enfin, on essaye d'être au maximum interopérable avec les systèmes déjà existants. Alors, un petit tour rapide du genre de documentaire dans les bases de données VINA. Donc, on a parlé de ces questions de définition de genre. Donc, à l'INA, on utilise le genre documentaire dans une acception très large qui est l'acception des diffuseurs, hein, puisque nos informations viennent des diffuseurs. Et donc, le documentaire ne veut pas dire documentaire de création. Nous n'avons pas un terme spécifique pour documentaire de création. Nous reconnaissons le documentaire, le docufiction et le docu-réalité. Le documentaire, son acception est donc très large. Notre problématique est parfois d'arriver à faire la distinction entre documentaire et reportage. Même ça, c'est compliqué parfois. Et on a parfois les appels d'ailleurs des sociétés d'auteurs qui nous demandent comment nous on a catégorisé tel programme, puisque d'un côté, vous aurez un auteur, et donc avec des droits afférents, etc. Et de l'autre côté, vous avez un journaliste, et ce n'est pas tout à fait la même catégorie. Ben, même ça, des fois, arriver à distinguer le reportage du documentaire, avec toutes les définitions qu'on peut avoir, pourtant, ce n'est pas toujours lisé. Donc, l'acception est très large. Ce qui explique pourquoi, en partie, on a des volumes aussi importants d'éléments identifiés comme des documentaires dans nos fonds. On a 85 000 notices qui correspondent au genre documentaire. Donc, ça peut paraître énorme, mais tous les documentaires qui sont identifiés comme documentaires dans nos bases de données ne sont pas... vous en avez une prise pour certains d'entre eux. Pour tout ce qui est ces questions relatives à la diversité des genres, à ce que ça veut dire un documentaire diffusé en access prime time, en prime time, à 3h du matin sur Arte, etc., toutes ces questions liées au format, je ne peux que vous renvoyer sur l'excellente étude menée par, le département des Géraldine à l'INA, qui a procédé à une étude des documentaires, dans les fonds, et ce qu'ils nous apprennent sur leur diffusion, leurs caractéristiques, etc. Je vous ai mis pour terminer l'intervention et pour illustrer le propos et qui illustre également le propos de l'intervenant précédent, je vous ai reproduit une notice documentaire telle qu'elle apparaît dans nos bases de données pour que vous voyez toutes les données qui sont gérés par l'INA et les nombres d'informations que ça permet d'y trouver. Donc, un titre propre, logique. Lors de sa diffusion, je vous laisse le faire, mais c'est intéressant d'aller comparer, comme a fait Corinne Delaporte tout à l'heure, justement les informations qu'on peut trouver là avec les informations qu'on trouverait sur un OSI. Si vous allez comparer avec ce que vous retrouvez sur fil documentaire, par exemple, bah vous ne trouverez pas la mention titre programme postface, puisque ça, c'est spécifique à la diffusion de France 3 du lundi 28 avril 2008, où ce documentaire a été diffusé dans un programme qui s'appelle postface. Donc, on retrouve les informations de la diffusion, évidemment, et typologie appliquée par l'INA, un documentaire de société. Tout ce qui relève des auteurs, les producteurs, les réalisateurs, les auteurs complémentaires avec un conseiller juridique, les descripteurs, c'est-à-dire l'indexation de contenu, de quoi ça parle. Ça se passe à Roubaix, dans un commissariat de police, c'est une enquête de police, on parle de meurtre, de garde à vue, de reconstitution judiciaire, du métier de policier, et c'est à base de témoignages. Le chapeau, qui donne le contexte du général, donc on rappelle que c'est un documentaire qui est consacré au commissariat central de Roubaix et que le réalisateur a filmé pendant un an la vie de ce commissariat, etc. Image inédite à ce jour. On ne parle pas beaucoup des dispositifs, de la forme, toutes ces choses que j'ai découvertes dans le Thésaurus mis au point par les équipes de Samuel. On en fait très peu cas. On est comme je vous l'ai dit, sur les problématiques de gestion de données très, 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 très volumineuses. Hein. C'est 152 pilatalistes qui travaillent sur ces sujets, mais il faudrait multiplier les effectifs par je ne sais combien pour arriver à utiliser des têtes russes sur les dispositifs aussi précis. Donc, un résumé qui fait office de résumé. On intègre aussi dans nos notices documentaires le résumé fourni par le conducteur. Et on peut toujours faire des comparaisons. Et puis voilà. On a rajouté en note que ce petit événement, hein, à savoir pourquoi ce documentaire a été diffusé 7 ans après sa mise en production et son tournage. Hein. On indique évidemment tous les producteurs. Vous remarquerez qu'on a l'identifié en ISAN ainsi que la référence immédiat et d'autres types d'infos qui font partie de nos bases de données et qui peuvent servir en fonction des publics concernés.
Je vous propose, si vous avez d'accord, de vous installer avec les autres participants de Bourgogne pour permettre un échange avec le public. Merci. Donc, vous avez compris, on a vu en fait un processus de génération en axe. Chloé rejoint nous, Némésis, Roland également. Bernard ne peut pas être là. Comme ça, on va permettre d'échanger avec le public. Vous disiez que ça devait être assez partagé, vous pensez que vous aussi vous pouvez faire, mais il y a deux micros comme ça, la question posée. Donc, l'idée c'était bien de voir que ce processus théorisé sous forme de génération, il pouvait très concrètement se mettre en œuvre chez une société qui travaillait pour ses clients, donc un process LT, le plus bien montré, pour que ces métadonnées aient une valeur, pas seulement marchande, une valeur qualitative. C'est la façon qu'une institution publique a une autre forme de marginalité propre à son organisation, mais dans un sens que, mais il y a une préoccupation que ça a aussi des enjeux de récession, de métadonnées fabriquées et reçues et utilisées. Tout ça, sous chapeau technique que nous a expliqué Bernard. Ça amène. Bah, alors, moi, je vais commencer par la question, c'est dur de penser, puis je laisse rebondir. Dans un monde idéal, si demain la présidence de l'INA disait formidable les services de cybersécurité, on veut le faire. Ça pourrait quand même quelques questions techniques, parce que les chercheurs et les chercheurs ont open access, donc accessible à tous, gratuitement, hébergé par le même lieu, et qui puissent être intégrés à une autre organisation, comme nous l'a expliqué Bernard, je ne suis pas spécialiste, hein, donc il reste des questions d'interopérabilité. Comment est-ce qu'il faudrait procéder pour que. Bon, tout le monde est d'accord, hein, c'est formidable, c'est déterminant d'indexer les films autrement par leur forme. D'ailleurs, vous n'avez que 85 000 documentaires, donc on va le faire. Un petit peu manuellement, un petit peu outillé, comment faudrait faire? Par quel bout prendre ce chantier?
Le chantier de l'intégration du thésaurus que
vous avez imaginé, c'est le monde idéal où tout a été voté politiquement et les ministres insistent pour que ce soit fait dans l'année.
On intégrerait un nouveau référentiel en plus de nos 80 référentiels. Ensuite, la difficulté serait pas du tout technique, elle serait uniquement de faire adopter ce référentiel et de la démarche que ça demande par les 70 techniciens de gestion de la donnée et les 150 documentalistes. Et quand on voit déjà la difficulté à intégrer parfois les nombreuses règles, les nombreuses méthodes, on a un bureau des méthodes à l'INA quand même qui justement travaille sur ces méthodologies et établit des outils pour aider les personnels à traiter les documents et que ce soit de la façon la plus homogène possible et la plus... Oui, c'est ça, c'est homogène, parce que si tout le monde ne rentre pas de la même façon, au final, on ne peut rien en faire. Donc la difficulté, elle est là. On a déjà énormément de règles, énormément de référentiels, et dans ce thésaurus que vous avez mis en place, Je pense qu'il faut déjà 3 ans avant de pouvoir lire toutes les définitions de chaque dispositif. Et donc, je ne sais pas qui pourrait avoir les ressources humaines et donc les budgets pour pouvoir mettre ça en œuvre sur ces volumes. Parce que c'est des concepts nouveaux hein, qui peuvent être intégrés, mais il faut, techniquement, il n'y a aucun souci. Mais je pense que c'est intellectuellement, il faut être dans une démarche, hein, il faut une démarche tout à fait particulière, il me semble, pour arriver à pouvoir utiliser ces concepts aussi facilement que les autres référentiels mis en place. Hein.
Merci. Je pense que c'est bien de mettre le coût humain à l'ère de l'IA et de l'automatisation, où on oublie cette dimension-là. On voit bien plus sur l'harmonisation des choses différentes de travail systématique, de gage qualité, dans les organisations présentes. C'est des questions que posaient les thèmes qui étaient pour l'instant. Et ça avait à arrondir sur cette point de vue, puisqu'on est passé de 287 à 27. On a quelque chose de beaucoup plus facile à mettre en œuvre, qu'on passe après. À vous la parole. Attendez juste de vous parler.
Bonjour, de là déjà. Bonjour, moi je suis Marion Caro, je travaille pour les Yeux Doc, la plateforme de la BPI de films documentaires. J'ai une question pour Némésis et Maglone. Je voulais savoir, vous disiez que vous aviez un corpus de 50 000 films à peu près sur lequel vous testiez vos mots-clés. Et je voulais savoir si vous aviez une idée de la proportion de films documentaires dans ce corpus et si vous aviez si les mots-clés vous les distinguiez en fonction de la génération fiction, documentaire, animation, ou si c'était sur l'ensemble du corpus que vous jouiez. Merci.
Alors, pour la proportion de documentaires, c'est un peu difficile de calculer parce qu'en fait, on a un peu deux pôles. On a 50 000, un corpus qui est fixe de films qui ont été indexés et qui sont... Enfin, on peut retourner les modifier, mais c'est un peu fixe. Et on a aussi l'indexation du flux de la télé, où là, il y a une beaucoup plus grosse proportion de documentaires. Et où là, je pense que c'est quasiment la moitié. Parce que, en tout cas, le non-fictionnel, c'est la moitié. Après, pour la proportion sur le fixe, je pense que c'est moins. Je pense que c'est, je dirais que c'est peut-être un cinquième. Et après, pour la catégorisation... Alors nous, c'est vrai que j'ai oublié de préciser que pour nous, les documentaires, on l'avait pas mis en genre, on l'avait mis en format au début. Et donc, parce qu'en fait, on part vraiment du principe que c'est pas... en fait, que c'est très rare qu'il y ait des exclusions pures. C'est-à-dire qu'en fait, c'est possible d'avoir de l'animation et documentaire. Un film d'animation qui est aussi documentaire. Quelque chose qui est finalement pas toujours fait. Il y a vraiment des plateformes où ils choisissent une des deux catégories et pas les deux. Et où, en fait, on part du principe que quasiment tous les textes sont applicables à n'importe quel format. Parce que ça soit formellement, les recherches formelles, les images, le travail sur les images, ça peut être fait à la fois documentaire, fiction, animation. Les thèmes, pareil. Un drame, enfin, un documentaire, ça peut être un drame aussi. Parce qu'en fait, il y a des documentaires qui font pleurer. Et il y a des documentaires qui sont aussi des comédies. Et donc c'est dit, enfin, on essaie de pas créer de silos pour isoler des concepts, mais plutôt de, enfin, la présentation qui parlait des livres et de comment ça a été fait, les fiches sur les films, les fiches sur les livres à la base. En fait, maintenant, on a un peu transcendé ces limites d'être obligé de classifier chaque livre, enfin le code Dewey pour les bibliothèques, etc. Souvent, en fait, c'était très difficile d'entrecroiser les concepts. Alors que là, c'est vraiment ouvert et on n'est pas obligé de fermer les documentaires, de les mettre dans une boîte documentaire où il y a genre juste les documentaires et ils ont leur propre tag. Enfin, voilà.
Bonjour, je suis là. Je suis Natacha Sirunik. Au départ, je suis documentariste et maintenant je suis aussi professeure à l'Université d'Aix-Marseille. Je voudrais vous remercier pour l'ensemble des communications et remercier... Samuel, pour la diversité des propositions et la cohérence entre toutes ces propositions. C'était très riche et très intéressant. Je voudrais juste remettre en perspective cette question des métadonnées, parce que finalement, on pose la question du formatage, de quels sont les formats, en essayant de mettre tout dans des cases, je le dis de manière un peu caricaturale. Et je voudrais insister sur la dimension sensible du documentaire. On a évoqué la distinction entre documentaire et reportage. Et le documentaire de création, précisément, a une approche sensible. Et je voudrais insister sur la dimension artistique. Juste pour le dire, parce que on va parler de documentaire pendant toute la journée, et ça me semble vraiment important d'insister sur la dimension artistique du documentaire de création. Si vous voulez réagir par rapport à ça, avec plaisir. Merci.
Nous, en fait, on fait aussi attention beaucoup à ça, effectivement, parce que, en fait, dans les envies, donc dans les trucs qu'on avait inventés au début pour essayer de sortir des genres, on avait vraiment créé une envie subtile pour dire, ah bah oui, pour les gens qui aiment vraiment les films d'auteurs intelligents, tout ça, qui peut être pondéré différemment, mais aussi l'envie de s'informer qui sera différente et qui sera pas forcément subtile, forcément. Pareil, parce qu'en fait, vouloir juste s'informer, c'est peut-être juste les news, c'est peut-être juste le journal, c'est peut-être effectivement un reportage. Alors, reportage, c'est pas un tag, on l'avait, on l'a supprimé, parce qu'en fait, il est vraiment franco-français. Il est pas trop applicable à l'international. Bon, c'est un peu une distinction qu'on fait chez nous, que tout le monde ne fait pas. Mais où, en fait, on pourra le rattraper avec journalisme et avec d'autres tags. Et donc oui, l'aspect sensible, le fait qu'on peut notifier si c'est des images plus ou moins belles, tout simplement, en fait, c'est quelque chose qu'on peut pondérer aussi. C'est ce que je disais tout à l'heure quand je disais qu'il y avait un peu de subjectif, un peu d'objectif. Quand on indexe, on essaye de quand même, on voit bien, même si on ne trouve pas ça beau personnellement ou même si on trouve ça très beau personnellement, on sait à peu près quels sont les efforts qui ont été faits pour produire des très belles images. Pour les documentaires nature ou les choses comme ça, parfois l'attention au formel, elle est plus ou moins forte, suivant si c'est Nat Geo ou si c'est un formaliste qui est parti dans la jungle. Et pareil pour l'aspect documentaire de création, donc on a un tag sur le documentaire de création, parce que ça c'est plus adaptable à l'étranger. Et on peut utiliser des tags qui notifient de. Enfin, des intentions un peu plus sensibles et artistiques en fonction de si ça s'applique ou pas pour le documentaire en question.
Bonjour, Nathalie Devis, moi je travaille chez Canal+, je suis responsable des métadonnées sur l'application. J'ai une question pour Sylvie. Sur toute la partie collecte et récolte, vous disiez que vous étiez alimenté par Plurimédia et par les diffuseurs eux-mêmes. Donc j'imagine que les données peuvent être pas toujours les mêmes entre la manière, enfin en fonction de chacun leur thésaurus. Comment vous faites le choix pour dire entre ces différentes données reçues, qu'un documentaire soit un doc société ou un doc histoire ou une autre catégorie.
Sur la thématique, vous voulez dire sur le
oui, enfin sur le choix que vous faites côté INA, est-ce que c'est Plurimédia qui est la bonne source? Ou est-ce que c'est le diffuseur, sachant qu'en plus...
Est-ce que c'est Plurimédia en diffuseur?
Ouais.
Plurimédia, ces informations viennent des diffuseurs.
Ouais, mais on...
Donc c'est les mêmes?
Non. Et vous êtes aussi alimenté par le producteur, vous disiez, donc avec toutes ces sources de données, voilà, quelle est la donnée qui fait foi chez vous? Ou est-ce qu'il y a un œil humain qui revient
Il y a un œil humain, bien sûr. En général, on conserve la donnée importée. Et c'est s'il y a un traitement documentaire par un documentaliste, le documentaliste s'y visionne, s'il vraiment il fait un traitement et qu'il enrichit, là, il va modifier. Là, c'est lui qui... C'est la décision du documentaliste en fonction des définitions... des définitions qu'on a nous en interne. Donc, s'il estime que c'est vraiment plus un documentaire historique, d'histoire que de société, il peut modifier ou il peut rajouter une thématique. Mais là, c'est vraiment à l'appréciation soit du catalogueur, soit du documentaliste. On n'estime pas qu'il y a une vérité absolue.
Oui. Oui, parce qu'on le voit même au sein de... Quand un contenu passe d'un diffuseur à un autre, il doit la qualifier différemment, comme on l'a vu en fonction de ce que disait Mme Delaporte, en effet.
Tout à fait.
Et vous repassez sur les fiches des films au fil du temps ou pas?
Des films documentaires en particulier? Oui. Vous voulez dire pour avoir une autre lecture?
Oui, pour modifier les métadonnées, du coup.
Ça peut arriver, mais alors, cette question de l'historisation est vraiment... on est très attentif à ça. Je vous donne un exemple. On vient de créer au Thésaurus, donc des noms communs, le terme féminicide. On a reculé pendant longtemps parce qu'on disait que tant qu'il n'était pas un terme juridique reconnu en France, on ne voulait pas le créer. Et puis en fait, on ne peut pas, veux-tu résister, il y a trop d'occurrences et donc ça devient logique de créer dans nos bases. Jusqu'à quand remonte-t-on si on fait de la correction puisque jusqu'alors, on s'était indexé avec meurtre et en précision d'indexation, féminicide. Jusqu'à quand remonte-t-on sur cette donnée-là? À partir du terme ou du moment où le terme est utilisé par les médias? Ou est-ce qu'il faut remonter? Il y a des féminicides, je ne vous apprends rien, depuis fort longtemps. Donc, mais est-ce qu'on doit dévoyer l'indexation qui a été faite dans les bases de données si le terme n'apparaissait pas dans les médias? Si on le crée, si on indexe aujourd'hui, si on fait de l'indexation rétrospective en mettant ça sur un document des années 50, ça n'a plus de sens. Donc, normalement, on évite de faire ce genre de choses, de faire des lectures, de revoir les documents, puis on n'en finirait jamais, et ce serait un travail sans fin, de faire des lectures avec les yeux, les connaissances actuelles, de les coller sur... Mais à côté de ça, on fait aussi ce qu'on appelle de la reprise d'antériorité, c'est-à-dire des documents qui, jusqu'alors, n'avaient pas fait l'objet d'un traitement documentaire, parce que faute de temps, faute de moyens, faute etc. Ça arrive régulièrement qu'on reprenne des collections pour et ben là, doit se poser la question, est-ce que on les traite avec la... Vous imaginez ce qu'on a dans nos fonds, la colonisation, tout ça, le vocabulaire qui est utilisé par les journalistes à l'époque, est-ce qu'on doit coller à ce vocabulaire-là ou faire une lecture en fonction de ce qu'on sait aujourd'hui et de la connaissance qu'on en a? Est-ce qu'on doit corriger tout le cancer gay de nos bases de données pour mettre le sida partout ou pas? Est-ce qu'on garde trace de ces mots ou pas?
Moi, je rebondis sur ce qui vient d'être dit. Bon, j'ai absolument aucune réponse à apporter, mais on n'a pas beaucoup parlé de la dimension politique de l'indexation. Je refais ma propagande théorique, mais qui du coup est aussi une propagande politique. L'indexation, à partir du moment où c'est la construction et de la production de sens, il y a une dimension idéologique extrêmement forte. J'avais une question en fait à poser à Spideo, mais aussi à des gens qui sont dans la salle. C'est vraiment très intéressé. Hein. Je profite de vous avoir sous la main pour une question de recherche. Est-ce que vous utilisez le tag, le genre, la thématique, quelle que soit la manière dont vous l'utilisez, film de femme? Ou en tout cas, le fait que le contenu ait été réalisé par une femme, parce que c'est une modalité d'indexation qui est en train d'émerger. Bon, on est en train de travailler dessus avec des collègues, et donc je profitais de savoir, voilà, est-ce que ça, c'est une manière d'indexer les contenus que vous avez intégré ou pas? Et je veux bien aussi, dans la salle, s'il y a des gens qui se sont posé la question, le font ou pas, avoir des éléments. Mais par ailleurs, sur Cancer Game, oui, je pense que ce serait bien.
De le changer, ouais.
Il y a eu un follow-up là-dessus.
Ce serait pas un terme qui serait au Thésaurus. Il pourrait apparaître dans la notice.
Ben, ouais, je réponds juste vite fait. On n'a pas le terme film de femme, évidemment. Parce que nous, on est très normes, etc. Donc, tous on a les tags et tout ça, ça n'existe pas. C'est très normé, le vocabulaire. On n'utilise pas d'anglicisme. Enfin, bon, tout est... Mais alors, film de femme, on ne peut pas trouver. Mais par contre, comme c'est un la fonction est dans les est dans le référentiel, la fonction de la du réalisateur ou de la en tant que réalisateur ou réalisatrice, et qu'on va indiquer son sexe, on peut donc, ne serait-ce qu'à travers une requête SQL assez simple, retrouver les films qui ont été réalisés par des femmes.
Pour nous, on s'est vraiment posé la question, on a failli le créer, mais en fait, on a des clients nord-américains et on s'est dit que c'était un peu la porte ouverte si on voulait créer ce tag au fait que, et comme Netflix le fait, si on commençait avec ce tag, on allait devoir aussi créer un tag réalisateur noir et toutes les communautés. Et on savait que c'était pas quelque chose qu'on voulait forcément faire, parce qu'après, enfin, oui, on a des clients qui allaient demander plus. Et donc on préfère pour le moment avoir un tag qui est, par contre, on a vraiment plusieurs tags qui sont sur les thèmes quand c'est des thématiques féministes et aussi quand c'est juste des personnages féminins forts, et en fait on fait de la distinction si c'est beaucoup de personnages féminins, si c'est plus militant, si, enfin, on a toutes ces distinctions là mais pour l'auteur, c'est vrai que on a failli le faire, mais on s'est rendu compte qu'on allait nous demander que ça c'était un terrain glissant et que oui, enfin, que c'était peut-être quelque chose qu'on voulait éviter pour le moment.
Merci beaucoup.